et de roi, de prêtre, de prophète. Encore une fois, quand on lit la Bible, notre direction, ça doit être de chercher Jésus-Christ. Nous savons que Jésus, justement, a regroupé ces trois ministères. Il était notre grand prêtre. Il est le roi des rois. Et il est aussi le prophète que nous annonçait ce passage ce matin. Je vous invite donc à commencer à lire au verset 10, 1 du chapitre 17. Tu n'offriras en sacrifice à l'Éternel ton Dieu ni bœuf ni agneau qui ait quelque défaut ou malformation, car il serait en horreur à l'Éternel ton Dieu. Autrement dit, pas d'offrande qui ne vous coûte rien. Un sacrifice défectueux est un signe de dédain de Dieu, détestable aux yeux de Dieu. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous n'allons pas sacrifier d'animaux pour Dieu. Mais nous sommes invités à faire des sacrifices de louanges. Nous offrir nous-mêmes en offrande, à lui faire le don de nos ressources, lui faire le don de notre temps. C'est curieux parce que déjà à l'époque de l'Ancien Testament, le prophète Malachi devait faire remarquer aux gens qu'ils volaient Dieu, qu'ils ne le respectaient pas dans leur façon de vivre. Et il leur disait, mais vous offrez à Dieu des bêtes que vous n'oseriez pas offrir au gouverneur. Quelque part, le Seigneur me disait, mais c'est vrai, en fait. Je n'oserais pas tricher sur mes impôts. Mais est-ce que je retiens des ressources, pas seulement monétaires, mais en talent, en temps? Est-ce que j'arriverai en retard au travail? Non, alors pourquoi est-ce que le dimanche matin ou le mercredi soir, une demi-heure, c'est pas bien grave? Encore une fois, il ne s'agit pas d'être légaliste. Mais d'avoir rendez-vous avec le Seigneur. Pas d'offrande qui ne coûte rien. Il nous parle aussi de la peine de mort pour les idolâtres. Et là, on retrouve un peu ce qui avait déjà été dit dans le chapitre 12. Et on sait que tout le livre du Deutéronome est une répétition de la loi. Alors quand on répète la répétition, c'est peut-être qu'il y a quelque chose d'important. Encore une fois, l'idolâtrie, pour nous, c'est pas de sculpter des statuettes. Mais c'est d'aller, comme il est dit au verset 3, d'aller rendre un culte à d'autres dieux, de se prosterner devant eux. Et là aussi, il est dit que celui qui entraînera des gens dans l'idolâtrie, celui qui rendra un culte à d'autres dieux, verset 3, verset 4, dès que tu entendras cette nouvelle, tu feras une enquête sérieuse. La main des témoins se lèvera la première sur lui pour faire mourir la personne. Verse 7. Celui qui mérite la mort sera exécuté sur la déposition de deux ou trois témoins. Alors encore une fois, sans faire un débat sur la peine de mort, on voit que Dieu considérait que la peine de mort était quelque chose qui devait être appliqué contre l'idolâtrie. Comme je l'ai déjà dit, on remet souvent en cause l'aspect dissuasif de la peine de mort. Qui ne sert pas à dissuader les gens. Mais là, lorsque versets 12 et 13, Moïse nous dit « L'homme qui agira avec audace sans écouter le sacrificateur placé là au service de l'Éternel ton Dieu ou sans écouter le juge, cet homme mourra. Tu extirperas ainsi le mal du milieu d'Israël. Tout le peuple apprendra, sera dans la crainte et n'aura plus tant d'audace. » Donc encore une fois, la peine de mort, son effet de dissuasion n'est jamais mis en question dans la Bible. Et je disais qu'on peut étendre bien sûr le problème de la peine de mort aux autres crimes que celui de l'idolâtrie. Et qu'en fait, aujourd'hui, on considérait comme un progrès, un grand progrès moral que d'avoir éliminé la peine de mort. Ce qui revient à critiquer ce que la Bible disait au sujet de la peine de mort. Alors on pourra dire, mais ça c'était l'ancienne alliance. Mais dans le Nouveau Testament aussi, il est dit que Dieu a donné l'épée à l'État. Et l'épée, ce n'est pas simplement pour les défilés du 14 juillet. L'épée, Dieu l'a donnée au gouvernement pour faire respecter la loi. Pour punir les méchants et récompenser les bons. Nous avons vu ça mercredi en étudiant 1 Pierre, chapitre 2. Alors encore une fois, il n'est pas question, si vous êtes pour des raisons morales ou de sensibilité contre la peine de mort, de vous convaincre du bien fondé de la peine de mort. Mais je veux vous inviter à réfléchir et ne pas avaler tout ce que le bien-pensé d'aujourd'hui nous donne. Je Et c'est vrai que la peine de mort aujourd'hui, elle est souvent appliquée avec beaucoup d'injustice. Dans les pays où elle a encore lieu. Mais là, on voit qu'il y avait des garde-fous. Il fallait qu'il y ait une enquête sérieuse. Il ne fallait pas que ce soit sur des rumeurs. Il fallait qu'il y ait deux ou trois témoins au moins. Et les témoins qui accusaient la personne d'un crime d'idolâtrie, devaient être les premiers à lancer la pierre. On a dit qu'en fait, le Deutéronome, c'était le livre de chevet de Jésus-Christ. On peut exagérer de dire que c'est le livre le plus cité par Jésus-Christ dans le Nouveau Testament. Et vous vous souvenez lorsqu'on lui avait amené la femme prise en adultère? C'est la même chose. Ses ennemis voulaient faire qu'il condamne à mort la femme. Et là, il était revenu au Deutéronome. Que celui qui est sans péché lui jette le premier la pierre. Et donc c'est vrai qu'on voit que dans le Nouveau Testament, Jésus a porté toute sa compassion, son amour. Mais il est important de ne pas se laisser guider par les médias, la société courante, pour nos convictions. On en arrive à des situations comme hier ou avant-hier, je crois, où les compagnies de CRS se battaient contre les gardiens de prison. Parce que les droits des condamnés sont tels que les gardiens de prison ne se sentent plus en sécurité. Si on s'arrête pour penser, on voit qu'il y a quelque chose de ridicule. Mais au nom du bien-penser, des droits de l'homme, on peut aller à des extrêmes imbéciles. Encore une fois, je ne vous demande pas d'avoir mes convictions, mais je vous demande de ne pas accepter les convictions d'autres comme étant la parole d'Évangile. Comme je l'ai dit, je remercie ceux qui m'ont posé des questions, qui m'ont dit qu'ils n'étaient pas d'accord. Parce qu'ils montrent qu'ils reçoivent la parole avec beaucoup d'empressement, mais qu'ils examinent chaque jour si ce qu'on leur dit, si ce que je vous dis est biblique. Tout Israël l'apprendra et sera dans la crainte. Et l'on ne commettra plus une action aussi mauvaise au milieu de toi. Ça, c'était un autre verset qu'on avait déjà vu. And will be fearful. Ici, c'est le verset 13. Tout le peuple l'apprendra, sera dans la crainte et n'aura plus tant d'audace. La loi ne prévoyait pas toutes les situations. Et c'est pour ça qu'il y avait des cas, verset 8, Si une cause relative à un meurtre, à un différend, à une blessure te paraît trop difficile à juger et fournit matière à contestation dans tes portes, tu te lèveras et tu monteras au lieu que l'Éternel ton Dieu choisira. Tu iras vers les sacrificateurs lévites et vers le juge qui sera leur en fonction. Tu les consulteras et ils prononceront pour toi la sentence de jugement. Donc, pour les situations qui étaient difficiles à juger, qui n'étaient pas prévues textuellement dans la loi, on leur disait d'aller vers les prêtres, les sacrificateurs, les lévites. Et vers le juge. Là, c'était comme une annonce du fait qu'il y aurait un juge qui régnerait sur Israël. Ils devaient les consulter et respecter leur verdict, leur sentence. Et c'est là aussi qu'il y avait la peine de mort pour ceux qui recevaient une sentence, ou plutôt un verdict, et qui n'appliquaient pas ce verdict. Là, je crois que ça s'applique à nous. Il y a aussi beaucoup de situations qui ne sont peut-être pas claires et nettes. L'important, c'est d'aller vers le juge, vers Dieu, pour lui demander une conviction personnelle. Mais une fois qu'on a cette conviction profonde, alors ne la violons pas. Est-ce qu'un chrétien doit avoir un arbre de Noël dans sa maison? Est-ce qu'il est chrétien de boire du vin? Est-ce qu'une femme peut porter les cheveux longs et avoir des bijoux? Est-ce qu'une femme peut porter des pantalons? On verra qu'il y a un passage un peu plus loin dans Deutéronome qui peut peut-être influencer votre conviction à ce sujet. Souvenez, à l'époque du Nouveau Testament, est-ce qu'on peut manger de la viande qui a été sacrifiée aux idoles? Faites-vous une conviction personnelle? Peine de mort. Ne jugez pas ceux qui pensent différemment, mais ne vous écartez pas de ce que le Seigneur vous a dit. Tu ne t'écarteras ni à droite ni à gauche de la sentence. Je crois que c'est un grand principe d'équilibre dans la Bible. C'est un grand principe même à appliquer en politique. On a vu ceux qui s'écartent à droite, l'extrême droite, ceux qui s'écartent à gauche, l'extrême gauche. Et on voit qu'en général, ce n'est pas des choses qui font du bien à la société. Nous sommes appelés à suivre le Seigneur. Parlant de politique, l'idéal de Dieu, ce n'est pas la démocratie. Même si c'était l'idéal des philosophes du XVIIIe siècle. L'idéal de Dieu, ce n'était pas non plus la monarchie. L'idéal de Dieu, c'est la théocratie. C'est-à-dire le gouvernement de Dieu. Nous vivons dans une démocratie. Nous remercions Dieu de ce que nous ne vivons pas dans une dictature. Et la démocratie, comprenez-moi, je l'apprécie, elle est un grand progrès par rapport à beaucoup de systèmes politiques. Mais l'idée que la majorité a toujours raison, c'est bien sûr une utopie de l'esprit. Dans nos actes, on en a parlé mercredi encore. Je vous invite à venir mercredi soir, même si vous êtes adulte, si vous avez du travail. C'est pas seulement pour les jeunes. Et on disait qu'en fait, qu'est-ce qu'on disait mercredi ? On parlait de ce sujet. Que le droit, c'est pas nécessairement ce qui à qui faut-il obéir, à Dieu ou aux hommes, au gouvernement. Nous devons obéir au gouvernement tant qu'il ne nous demande pas de faire des choses contraires à ce que Dieu nous demande. Dieu veut que vous viviez dans une théocratie. C'est-à-dire que ça doit être lui qui dirige votre vie. Bien sûr, nous devons encore respecter les lois du pays. Mais si jamais il y a conflit, c'est à lui que nous devons notre allégeance. Et justement, lorsque la Pentecôte était arrivée, l'apôtre Pierre disait, parlez à tous de ce Jésus qui était le sauveur du monde. Les autorités politiques et religieuses lui disaient, on t'interdit de parler de ce Jésus. Et il disait, mais à qui est-ce qu'on doit obéir ? À Dieu ou aux hommes ? Et il a continué à prêcher l'évangile. On l'a jeté en prison. Il a continué. Dieu voulait la théocratie pour Israël. Mais il savait que les gens voulaient faire comme tout le monde. Et au verset 14, on a une prophétie. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, lorsque tu en prendras possession, que tu y habiteras et que tu diras, je veux établir sur moi un roi, comme toutes les nations qui m'entourent, tu établiras sur toi un roi que choisira l'Éternel ton Dieu. Tu établiras sur toi un roi du milieu de tes frères. Tu ne pourras pas te donner un étranger qui ne soit pas ton frère. Ce n'était pas le désir de Dieu, mais Dieu, connaissant les hommes, connaissant le futur, savait qu'ils allaient demander, exiger un roi comme tout le monde. Et dans 1 Samuel 8, on voit comment le prophète Samuel leur explique que vous voulez un roi, vous allez avoir un roi, mais attention, il va y avoir des problèmes avec le roi. Dieu avait dit à Samuel, ils veulent un roi, c'est pas toi qu'ils rejettent comme juge, c'est moi. Thank you. Et dans verset 8, 9 du chapitre 8 de Samuel, c'est pas la peine, si vous allez lire. Écoute donc leur voix, ils veulent un roi, tu les écoutes, mais avertis-les solennellement et fais-leur connaître les droits du roi qui régnera sur eux. Et le verset 11 dit, voici les droits du roi qui régnera sur vous. Il prendra vos fils, il en disposera pour ses chars et parmi ses cavaliers. Ils courront devant son char. Il prendra vos filles comme parfumeuses, cuisinières, boulangères. Il prendra le meilleur de vos champs, de vos vignes, de vos oliviers, les donnera à ses serviteurs. Il prendra la dîme de vos semences, de vos vignes, il la donnera à ses chambellans, à ses serviteurs. Il prendra les meilleurs de vos serviteurs, de vos servantes, de vos jeunes gens, de vos ânes, et il s'en servira pour ses travaux. Il prendra la dîme de votre petit bétail, et vous deviendrez même ses esclaves. Ce jour-là, vous crierez contre votre roi que vous serez choisi, mais ce jour-là, l'Éternel ne vous répondra pas. Verset 19. Le peuple refusa d'écouter la voix de Samuel. Non, dirent-ils, il y aura un roi sur nous. Et nous aussi, nous serons comme toutes les nations. Notre roi nous jugera et sortira devant nous et conduira nos guerres. Lorsque nous insistons pour avoir les choses de notre façon, si nous insistons assez, le Seigneur peut accéder à nos requêtes. Vous voulez un roi? Je vais vous donner un roi. Le Seigneur les met en garde dans la suite de notre chapitre. Et là, on sent toujours la compassion de Dieu. Vous voulez un roi? Bon, je vais vous donner un roi. Mais trois choses, veillez-y bien. Verset 16, qu'il n'ait pas un grand nombre de chevaux et qu'il ne fasse pas retourner le peuple en Égypte pour avoir beaucoup de chevaux, car l'Éternel vous a dit, vous ne retournerez plus par ce chemin-là. Deuxièmement, qu'il n'ait pas un grand nombre de femmes afin que son cœur ne s'écarte pas. Troisièmement, qu'il n'ait pas une grande quantité d'or et d'argent. Trois prohibitions. Et pourtant, lorsqu'on considère le plus grand roi d'Israël, celui qui avait demandé la sagesse à Dieu, qu'il avait reçu avec aussi toute la prospérité matérielle qu'on peut imaginer, le grand roi Salomon, on dirait qu'il a pris ses commandements, ses prohibitions, et qu'il a beaucoup travaillé pour les violer complètement, une par une. Il est dit dans 1 roi 5, 6, 4, 26, suivant les Bibles, que Salomon avait des écuries pour 40 000 chevaux. Chapitre 10, verset 28, il est dit qu'on a amené d'Égypte les chevaux de Salomon. On allait en Égypte chercher les chevaux de Salomon. Donc celle-là, j'en avais pris soin, pas de chevaux, 40 000, n'allez surtout pas les chercher en Égypte, je veux plus que vous retourniez là-bas, on va les chercher en Égypte. Qu'il n'est pas un grand nombre de femmes. Le même livre des rois, un roi 11. Pour vous, qu'est-ce que c'est qu'un grand nombre de femmes? Deux, normalement, ça devrait être trop. Lui, il avait 700 princesses pour femmes. 700 femmes. Et 300 concubines. Il est dit dans le même verset, 1 roi 11, que ces femmes détournèrent son cœur. Détournèrent son cœur vers d'autres dieux. L'abomination des Ammonites. Si on vous avait donné cette prohibition, il aurait fallu travailler dur pour se retrouver avec 1000 femmes. C'est ce qu'a fait le grand roi Salomon. Lui qui avait reçu plus de sagesse qu'aucun autre homme à l'époque. L'argent, pas d'argent, n'accumulez pas l'argent ni l'or. Il est dit que chaque année, il en recevait près de 22 tonnes. Ça en fait des boucles d'oreilles. C'était 666 talents d'or chaque année. Ça, c'était pour l'or. L'argent, il y en avait autant à Jérusalem que c'était comme les pierres. Comme le Seigneur l'avait dit, cela a détourné son cœur de Dieu. Je crois que c'est Billy Graham qui a dit qu'il y a trois dangers pour tout homme, pour tout responsable chrétien ou tout homme en général. Il suffit de regarder l'actualité politique ou judiciaire. Les chevaux, et le pouvoir, les femmes, le sexe, l'argent. Ce sont des ressources, ça peut être des bonnes choses que Dieu nous demande, avec lesquelles Dieu nous demande de faire très attention. C'est vrai qu'on dit aujourd'hui le pouvoir, le sexe, l'argent dirigent le monde. Mais pourquoi est-ce qu'il voulait des chevaux? Parce que les chevaux, ça lui assurait la domination militaire, la puissance militaire. Quelqu'un qui avait plein de cavaliers sur des chevaux, il était infiniment supérieur à ceux qui couraient à pied avec des flèches ou des lances. Les rois épousaient des femmes étrangères, pas pour avoir 1000 concubines. Peut-être peut-être qu'il y en avait qui lui plaisaient, mais c'était essentiellement pour former des alliances politiques. Un peu comme à l'époque des rois français, Louis XIV, Napoléon, on les mariait avec quelqu'un pour faire une alliance et s'assurer que les troupes n'allaient pas envahir l'Autriche. Ou... Et puis bien sûr, l'argent, ça conduisait au sentiment de « je suis indépendant, je peux faire ce que je veux, quand je veux, où je veux ». Et si Dieu disait que le roi ne devait pas avoir les chevaux, les femmes et l'argent, c'était pour créer un sentiment de dépendance envers Dieu. Quand j'ai de l'argent, des femmes, ma femme, un certain pouvoir, alors Dieu, c'est un confort en plus. Mais si je n'ai pas ces sécurités, alors je vais être dépendant de Dieu. Ça, c'est un thème qu'on retrouve dans toute la Bible. Pour ceux qui ont fait l'étude l'an dernier de faire l'expérience de Dieu, on avait mémorisé un verset. Est-ce qu'il y en a qui ont la mémoire? Le psaume 27. Clara. C'est ça. Les uns, c'est à leur char, les autres. Les uns, c'est à leur char, les autres, c'est à leurs chevaux, mais nous, c'est au nom de l'Éternel, notre Dieu, que nous faisons appel. Quand je suis dans le besoin, vers qui est-ce que je me tourne? Est-ce que je me tourne vers Dieu? Ou vers mes chars et mes chevaux? Quel que soit ce genre d'aide, ça peut être des relations, ça peut être un compte en banque, ça peut être la sécurité sociale, ça peut être des allocations. Le Seigneur va utiliser ces choses, mais est-ce que c'est à lui que je demande l'aide? L'essence du péché, c'est l'indépendance. Le péché, ça consiste à dire j'ai Jéhovah, celui qui est tout, qui peut être tout pour moi, mais je vais chercher ailleurs. Ce que Dieu veut de nous, c'est une totale dépendance. Cette dépendance, elle n'est pas mieux exprimée que dans la prière. C'est pour ça que nous aimerions que nous grandissions tous ensemble dans la prière. On pense que ce serait bien d'avoir un local. Pour moi, c'est secondaire. Nancy dit que pour l'école du dimanche, c'est prioritaire. C'est vrai. Mais ne croyons pas qu'avoir un bâtiment va faire grandir l'Église. Peut-être que des gens viendront voir qu'est-ce qui se passe. On sera excité parce qu'on aura repeint les murs, mis de la moquette peut-être. On sera comme les autres églises. On aura enfin une vraie adresse. Mais le Seigneur m'a dit, c'est pas ça qui compte. L'église que je bâtis, c'est des pierres vivantes. L'Église, c'est chacun et chacune de vous, dépendant de Dieu, pour votre vie, votre travail, votre avenir. Devenons une maison de prière. Amen. Ne dépendons pas sur nos chevaux, nos femmes et notre argent. Verset 18, quand il s'assiera sur son trône royal, il écrira pour lui dans un livre un double de cette loi qu'il prendra auprès des sacrificateurs lévites. Il devra l'avoir avec lui et y lire tous les jours de sa vie, afin qu'il apprenne à craindre l'Éternel son Dieu, à observer toutes les paroles de cette loi et toutes ses prescriptions pour les mettre en pratique. Afin que son cœur ne s'élève pas au-dessus de ses frères et qu'il ne s'écarte pas de ses commandements, ni à droite, ni à gauche, afin qu'il prolonge ses jours dans son royaume, lui et ses fils au milieu d'Israël. La parole de Dieu, encore une fois. Qui promettait la vie longue et la prospérité. Le roi devait l'écrire pour lui. Alors on peut penser que c'était de réécrire le Deutéronome ou peut-être tous les cinq livres du Pentateuque. Je crois que l'idée de l'écrire, c'était pour être sûr qu'il allait passer du temps à la lire. Est-ce que vous lisez votre Bible avec un crayon? Dieu ne m'a jamais parlé avec une grosse voix venant du ciel. Mais il me parle sans cesse en me donnant envie de souligner quelque chose dans la Bible. C'est le pasteur John Corson qui dit que d'avoir un papier et un crayon quand on vient au culte, quand on prie, ça montre qu'on a dans notre cœur l'attitude que je m'attends à ce que Dieu me parle. Si je me dis, oh, je connais l'histoire du Deutéronome. C'est déjà une répétition. Bon, on va venir ce dimanche. Vous avez vu les journalistes quand il y a une personnalité qui leur parle? Avant les magnétophones, ils prenaient les notes en sténo. C'est pas ce que je vais vous dire, mais c'est ce que Dieu peut dire par moi, va vous parler. Je vous invite à même prendre des passages dans votre moment le matin et réécrire à la main. Ayez toujours avec vous une Bible ou un Nouveau Testament. Il y en a des petites, des très petites. quand vous êtes en file d'attente à Carrefour, il y a 10 personnes devant vous avec des provisions. Au lieu de regarder dans Ici Paris les dernières nouvelles de Love Story, lisez la parole de Dieu. Quand vous avez un moment, ouvrez la Bible. Vous allez nourrir votre âme. Et bien sûr, mettez-la en pratique. Vous devez venir aussi avec humilité. Parce que quand je lis la Bible, c'est un reflet de combien je suis loin encore de ce que Dieu attend de moi. Et ça m'humilie devant lui. Ce serait chouette si Chirac, Jospin, Perra, chaque jour pouvaient écrire un peu de la Bible sur un vieux cahier de brouillon. Peut-être qu'ils le font. Qu'ils la mettent en pratique. Amen. Je crois qu'on va s'arrêter là. Afin qu'il prolonge ses jours dans son royaume, lui et ses fils, au milieu d'Israël. Dieu veut nous donner une vie pleine. Pas nécessairement une vie longue, on compte son temps. Mais une vie abondante. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Car je suis doux et humble de cœur. Et mes commandements ne sont pas un fardeau. Venons à Christ journellement, dans l'humilité. Et dans la dépendance. Amen. Alors attention, on recommence tout. C'est pas l'indépendance, mais la dépendance. Amen. Et le Seigneur est là, il nous a envoyé, il nous a donné son Esprit Saint pour nous toucher. Encore une fois, ce n'est pas pour que nous nous prévalions de dons particuliers. Ou de nous en vanter. Mais pour nous les donner, pour que nous les mettions à son service. Prenons un temps de prière. Oh Seigneur, nous avons tellement besoin de toi. Seigneur, je vois tous les besoins dans ma vie, tous mes péchés, tous mes manquements, toute ma tiédeur qui te fait vomir, Seigneur, tu l'as dit dans ta parole. Seigneur, ce matin avec mes frères, je veux te dire combien nous sommes faibles, combien je suis faible. Mais Seigneur, nous sommes heureux de le reconnaître. Parce que c'est quand nous sommes faibles que toi tu es fort. Et Seigneur, notre désir, c'est de pouvoir être utile entre tes mains. Seigneur, reprends-nous. Aide-nous, Seigneur, à être un peuple saint. C'est-à-dire à séparer pour toi. Être dans le monde, mais pas du monde. Apprends-nous, Seigneur, à ne pas vouloir faire comme tout le monde. Mais à vouloir faire ta volonté. Seigneur, je te remercie parce que je sens que tu parles à plusieurs parmi nous. Seigneur, nous ne savons pas ce que tu vas faire de nous. Mais nous avons confiance en toi. Nous attendons à toi, Seigneur. Seigneur, nous savons que tu as un grand cœur pour tous ces gens qui nous entourent. Tu aimes aussi nos frères et sœurs chrétiennes dans d'autres assemblées, Seigneur, dans ton corps. Seigneur, nous voudrions que tu démarres un réveil dans mon cœur, dans nos cœurs. Seigneur, toi qui es le juge, qui est le roi, qui est le prophète. Seigneur, merci pour les épreuves que nous traversons, individuellement ou collectivement. Parce que Seigneur, ces épreuves nous rapprochent de toi. Seigneur, remplis-nous de toi par ton Esprit Saint. Nous nous repentons de nos mauvaises voies, Seigneur. Sois glorifié, Seigneur, dans nos vies, dans cette église, dans cette ville. Par le nom de Jésus, notre Seigneur. Et tous les saints répondirent Amen. Amen.